Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, c'est Colombe Schneck qui nous rend visite pour son nouveau roman. C'est elle aussi d'ailleurs qui a choisi le roman culte Portnoy et son complexe de Philippe Ross. Nous irons visiter une bibliothèque, celle de Didier Bourdon aujourd'hui. Beaucoup de poésie chez l'inconnu. Nous irons nous balader dans une librairie chez les copains de Vaucresson et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman Jeunesse évidemment. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Bonjour Colombe Schneck.
Bonjour Nicolas Carreau.
Je précise aux auditeurs que avant de parler dans le micro, vous êtes déchaussé et vous avez posé vos pieds sur le plancher. Vous m'avez dit c'est mieux pour parler, on est mieux connecté, ça vibre plus, c'est ça?
Oui, et d'abord j'adore la radio, je trouve ça c'est un média extraordinaire parce qu'on a l'impression d'être tous les deux là et personne, on est tranquille.
Il n'y a personne, il y a Boris derrière la console, sinon il n'y a que nous.
Et je suis pieds nus, les pieds sur le sol, sur le parquet, c'est très agréable.
Donc vous êtes avancée un petit peu sur le fauteuil, parce que vous voyez, je suis petite, mais il faut absolument que mes pieds touchent le sol.
On parle mieux.
Oui, mais vous avez raison, c'est une très bonne astuce. On vous a quitté donc l'année dernière avec Nuit d'été à Brooklyn, on s'était parlé, on ne s'était pas vu, c'était en plein confinement. J'étais chez moi, vous étiez chez vous?
Oui, j'étais chez moi, oui.
Vous êtes de retour avec deux petites bourgeoises, ça sonne comme une comptine ce titre. C'est chez Stock, ça commence par un drame. 2018, Héloïse meurt d'un cancer, ce sont les deux premières pages, et ensuite 1977, et on suit l'enfance d'Héloïse et sa copine Esther, puis leur vie, ça va d'année en année comme ça, dans les beaux quartiers de Paris, et plutôt dans la haute bourgeoisie. Donc Esther, qui vous ressemble, hein, comme d'habitude, qui est un peu votre alter ego littéraire, on y reviendra, mais la bourgeoisie d'abord, je vous cite. Les bourgeois sont malheureux et c'est leur faute. Ils sont là à geindre avec leurs problèmes de riches, leur dépression, leur régime, les travaux de leur appartement, la poussière, leur domestique, la queue au télésiège. Quant aux bourgeoises, forcément étriquées, mal baisées, la peau trop tendue, les pieds serrés dans des escarpins, la main agrippée à leur sac et leurs enfants et leurs filles, surtout, aucun espoir que cela s'arrange. Vous y allez franchement et en même temps, ensuite, vous dressez un portrait très équilibré de ce qu'on appelle la bourgeoisie. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la bourgeoisie ?
Qu'est-ce que c'est que la bourgeoisie? C'est le milieu dont je viens. J'ai soumis très longtemps à l'admettre. Parce que comme dit la chanson de Jacques Brel, que j'adore, les bourgeois, c'est comme les cochons. Mmh. Quand vous regardez dans le dictionnaire des synonymes...
Plus ça devient gros, plus ça devient bête.
Voilà. Il n'y a pas beaucoup de héros, de héroïnes de la littérature, qui soient des bourgeois, des bourgeoises, qui soient des héros sympathiques. Vous regardez le synonyme de bourgeois dans le dictionnaire, c'est catastrophique. Ce que je cite au départ, l'extrait que vous avez cité, c'est pas ce que je pense.
C'est ce qu'on dit sur les bourgeois.
C'est ce qu'on dit. Et moi, je viens de là. Et pendant très longtemps, quand on m'interrogeait, je disais, et j'étais absolument sincère, je disais, pas du tout, je ne suis pas du tout une bourgeoise, mes grands-parents ont émigré, ils sont partis de rien. Bon, j'habitais effectivement à Paris, dans ce qu'on appelle les beaux quartiers, au centre de Paris. J'ai fait mes études, ma scolarité dans une école privée que j'ai adorée, qui s'appelle l'école alsacienne. Et j'appartenais à ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie intellectuelle du 6e arrondissement à Paris. Voilà ce qu'on peut faire. Il faut donner une étiquette. Il faut donner des étiquettes. Et donc, moi, enfant, je voyais, avec mes grands-parents émigrés de pays qui n'existent plus, mes grands-mères avec leur accent, notre appartement où tous les meubles avaient été achetés aux puces. On n'avait pas hérité, les parents n'ont pas hérité. Et je voyais mes copines de classe qui, eux, venaient du milieu de ce qu'on appelait la grande bourgeoisie.
Héloïse, par exemple.
Voilà, ma meilleure amie, l'amie que je rencontre. C'est vraiment un roman autobiographique, donc je peux dire que Héloïse était mon amie. Je la rencontre en 6e. Et pour moi, c'était eux, les bourgeois. Ils avaient hérité d'appartements, de meubles, de maisons en Provence, en province, de racines. Il y avait des cousinades. Enfin,
Par exemple, on ne se sert pas du même couteau pour prendre le beurre dans le beurrier et pour l'étaler sur son pain.
Oui, toutes ces règles que je ne connaissais pas, parce que moi, je n'étais pas du tout bien élevée. Mes parents étaient « cool », entre guillemets. Voilà, ils pensaient ne pas être des bourgeois. Ils votaient à gauche, ils ont voté François Mitterrand en 1981. Donc, toutes ces règles de la bourgeoisie, c'était chez nous ignorées. Et il m'a fallu des années pour les apprendre. Je ne les connaissais pas. Pour moi, c'était des règles bourgeoises, un milieu auquel je n'appartenais pas. Donc, il y a eu cette constatation. Un jour, j'ai dû admettre que j'étais une bourgeoise, ce terme tellement honni.
Et que c'était pas grave.
Et que c'était pas grave, donc j'étais comme un être humain.
C'est autobiographique, vous l'avez dit, mais est-ce que vous aviez vraiment un compte à la boulangerie?
Oui. Mais
ça existe, ça?
J'avais un... Mes parents nous avaient ouvert... Mes parents travaillaient beaucoup. Ils étaient assez peu présents. Et donc, on s'occupait tout seul, quoi. Mais c'était pas grave. J'entrais à l'école très petite, toute seule à la maison. Et ils avaient ouvert un compte à la boulangerie. Donc, tous les jours, en sortant de l'école, j'allais me chercher mon pain au chocolat, mon croissant. Et parfois, je prenais deux goûters.
C'est quand même incroyable, ça.
Oui, c'est une grande chance. En plus, c'était une très bonne boulangerie. La boulangère s'appelait Madame Colin. Et elle faisait des croissants très longs, très fins. J'ai jamais vu ça ailleurs. Tout pointu, au beurre, très, très croustillant. Un délice.
Et vous avez parlé de l'école alsacienne, vous l'avez citée. Moi, je ne viens pas de Paris. Et quand je suis arrivé, effectivement, j'ai vu des gens qui allaient à l'école alsacienne et tout ça. J'avais jamais entendu parler de trucs-là. C'est très particulier. Qu'est-ce que c'est? Vous nous la présentez un peu. Il y a un moment où vous dites que des parents d'élèves sont nommés ministres au moment de l'arrivée
de Mitterrand. C'est vrai. Donc, c'est l'école où... je pense au très beau titre du livre Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. C'est l'école où j'étais, où mes enfants sont allés, et les enfants de mes amis, des amis que j'ai rencontrés dans cette école. Donc c'était une école qui a été créée par des Alsaciens après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne, pour recréer à Paris une école protestante, comme il y avait à Strasbourg, une école qui s'appelle le Gymnase Jean Sturm, où il y avait des principes qui était peu connue en France au début à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire une école mixte, une école laïque, une école où les enfants font du sport, une école ouverte où on développe l'imagination, où il n'y avait pas ce côté strict de l'école française, que ce soit républicaine ou catholique, il y a quand même, on doit vous rentrer dans une espèce de moule, quoi. C'est vraiment, donc c'était une école merveilleuse. C'est une école où les enfants étaient encouragés. Moi, j'étais une petite fille qui, comme beaucoup d'enfants, ne travaillait pas beaucoup, mais j'avais beaucoup d'imagination. Donc, on développait mes défauts comme mes qualités. Et surtout, on était très encouragés. C'est une école où j'étais effectivement très heureuse. Et quand je pense à l'injustice d'une éducation bourgeoise que j'ai reçue, je vois là qu'il y avait une grande injustice, puisque, je le dis franchement, voilà, je n'étais pas très bonne élève comme beaucoup d'autres enfants. Mais parce que j'étais dans cette école, parce que j'étais encouragée, parce que mes parents appartenaient à cette bourgeoisie intellectuelle, je pense que j'aurais été dans une école normale, entre guillemets, j'aurais été orientée à la fin de la troisième et j'aurais eu beaucoup... Voilà, j'aurais fait des études professionnelles. Encore une fois, parce que j'étais là, parce que j'appartiens à cette classe sociale, la bourgeoisie, parce que j'étais dans cette école très privilégiée, on m'a encouragée jusqu'au bout et j'ai fait des bonnes études. La grande injustice... le grand privilège, je crois, d'appartenir à la bourgeoisie, il est d'abord là, dans cet accès à une très bonne éducation, un encouragement à aller au musée, à lire, à aller au théâtre. Et tout ça est un grand privilège dont j'ai bénéficié.
Et puis, c'est aussi un système qui se reproduit, puisqu'effectivement, l'école alsacienne, on attend son enfant à côté de la vedette du moment ou du ministre truc.
Oui,
c'est un réseau
aussi.
C'est
ça qui fascine. Ah oui.
Puis on a été à l'école alsacienne ensemble, on entend les vedettes qui disent ça parfois.
Effectivement, quand j'étais adolescente, il y avait des enfants dont les parents étaient ministres ou acteurs célèbres, etc. Mais je me souviens qu'enfant, on s'en fiche parce que ce qui compte, c'est est-ce que ce type ou cette fille, elle est sympa ou elle est chiante ou on a envie de jouer avec ou pas. Que son père soit ministre ou un acteur célèbre, ça n'a pas tellement d'importance.
Moment,
et puis,
ouais.
Comme il y en avait quand même pas mal, on s'y habitue.
Surtout, vous n'êtes pas du tout populaire avec Héloïse.
Non, on n'était
pas une
petite fille cool.
Au boom.
Non, on n'était pas une petite fille cool. On était un petit peu... On était un peu baissé. Oui, on n'était pas cool. On ne fumait pas de joint, on ne fumait pas de cigarette. On était vraiment... on s'habillait un peu, de façon un peu classique. On n'était pas des... Oui, on n'était pas cool. Mais pour revenir sur de réseau, parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui fascine et qu'on repose souvent la question. Effectivement, 20, 30 ans après, j'ai retrouvé des camarades de classe qui sont aujourd'hui... qui ont pu être ministres, qui ont pu être dirigés d'entreprise. Donc, on peut dire qu'il y a une espèce de... Oui, de réseau. Mais je n'ai pas le sentiment... que ce soit là le privilège d'avoir bénéficié de ça. Je pense que ça existe et peut-être que certaines personnes en profitent. Mais moi, mon grand privilège, c'est d'avoir été encouragée, qu'on m'ait donné confiance. Que constamment, on m'ait donné confiance. Et je crois que c'est ça le premier privilège, il est là.
Et puis d'être devenu ami avec Héloïse, on revient sur cette histoire d'amitié dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Colombe Schneck pour Deux petites bourgeoises aux éditions Stock. Revenons un peu sur le titre Colombe Schneck. Deux petites bourgeoises, je disais tout à l'heure, ça sonne comme une comptine. Vous l'avez conçue comme ça ou c'est moi qui l'entends comme ça?
C'est une comptine qui agace, en tout cas, je pense. Je ne peux pas m'empêcher d'aller où je ne devrais pas aller parce qu'effectivement, mettre ce mot bourgeois qui est presque un, qui est un gros mot, je vois bien que c'est agaçant, énervé. Hier, j'étais dans une librairie dans le quartier de Belleville à Paris. Et bon, en général, quand j'ai un livre qui sort, qui marche, il est sur les tables devant. Et là, le type l'avait caché derrière.
Mais vous faites encore ça? Vous allez dans les librairies voir
s'il
y a votre livre?
Ça m'arrive. Non, parce que j'achète des livres. Je suis d'abord une lectrice. Ah. Si vous me dites ce que je fais dans la vie, je vous dirais, je lis des livres. Donc, pour aller dans les, lire des livres, je vais beaucoup en librairie. Je passe beaucoup, pas pour, pour regarder si mon livre est là. Je sais que ça, c'est une très mauvaise idée, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder, jeter un coup d'œil. Mais là, j'étais étonnée.
Et vous l'avez demandé ou pas?
Non, non, non. J'ai vu que bon, bah, c'est pas grave. Hein, on peut pas être aimé par tout le monde. Surtout quand on est une bourgeoise, c'est vraiment.
Mais ce deux petites bourgeoises, est-ce que c'est pour raconter cette histoire de cette manière-là, assez légère finalement, même s'il y a énormément de gravité.
Je voulais d'abord, et c'était ce qui est le plus important, c'était rendre hommage à l'amitié. J'ai rencontré cette amie. On était en sixième. On avait 11 ans et on s'est tous rapprochés parce qu'on était les mêmes. On était les deux petites élèves avec les cheveux châtains, les yeux clairs, on se ressemblait physiquement et on s'est accompagnés pendant 40 ans. Elle était meilleure élève que moi, elle était meilleure en sport que moi.
Surtout pour grimper à la corde.
Elle faisait partie des gens qui savaient grimper à la corde.
Lisse.
Voilà,
alors
lisse.
Que vous ne dépassiez pas le premier nœud de la corde à nœud.
Oui, merci de me le rappeler.
C'est vrai qu'on sent que c'est un traumatisme, ça.
Mais je crois qu'effectivement, il y a des catégories de gens, les gens qui savent monter à la corde et ceux qui n'y arrivent pas et qui restent en bas. Je faisais partie de ceux-là. Et vous?
Je ne saurais pas vous dire. Je n'ai jamais essayé, en fait. Je vous jure que c'est vrai. Mais je ne crois pas que je sois très fort non plus.
Et elle était meilleure que moi. Et je voulais raconter que dans une amitié, il y a l'admiration. Je l'admirais parce qu'elle était vraiment mieux que moi, moi en mieux. Mais il y avait aussi de la rivalité et j'étais jalouse. J'étais jalouse parce qu'elle était plus forte que moi, plus intelligente. Par exemple, c'était quelqu'un de très honnête et elle ne mentait jamais. Et moi, j'ai tendance parfois à raconter des histoires. Je suis écrivain. Et je me souviens que je l'avais fait croire que j'avais une méningite quand j'étais petite. Parce que j'avais lu l'histoire de cette féministe américaine dont les noms m'échappent, Hélène Keller, qui avait une méningite petite. Et donc, je m'étais dit, si elle a une méningite, c'est un signe d'intelligence. Donc, si je dis que j'ai une méningite, elle saura que je suis aussi intelligente.
Enfin, et c'était un mensonge.
Bien sûr, c'était un mensonge. Et des années après, elle m'en a reparlé. On se souvient quand j'étais petite, à une méningite, et j'ai posé lui dire, mais non, mais tu sais... Je t'avais raconté des carabistouilles, comme on dit.
Il est question d'amour aussi dans ce livre, comme dans tous vos livres, en tout cas la plupart. Mais c'est l'amitié, vous l'avez dit, qui est au cœur de ce livre, que vous avez raconté, à mon avis, ou conçu, comme une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'il y a de la passion, à un moment, il y a des petites trahisons aussi, il y a des liens qui se détendent et puis qui se retendent.
C'est un lien important. Moi, je pensais... que la plus grande ambition d'une femme, c'était le couple amoureux. Je me suis rendu compte que finalement, les liens plus importants de ma vie, les liens les plus forts, les liens les plus fidèles, qui m'ont accompagnée, et que je négligeais, ils étaient là, présents, mais je ne voyais pas leur importance, c'était ceux créés par les liens de l'amitié. Qu'ils étaient aussi forts, aussi importants, aussi riches, et que cette amie, comme d'autres, m'ont accompagnée, m'accompagne, et que ce lien a autant d'importance que celui du couple qui est mis en avant, parce que c'est la société, comme la religion, a des intérêts dans le couple. Il faut se marier, avoir des enfants, donc il y a des obligations dans un couple imposées par la société, comme la religion. Les enfants, on doit faire l'amour 3 fois par semaine, on doit aller déjeuner avec les beaux-parents le dimanche. Enfin, il y a un certain nombre de règles. Si vous n'êtes pas dans cette norme-là, oulala, c'est la catastrophe, ça va pas, tu fais pas l'amour 3 fois par semaine, mais c'est que, tu vois, ton couple ne va pas. Ou tu n'as pas envie de partir en vacances avec ton mari, ou tu as envie d'aller voir autre chose, ou tu as envie, tu n'as pas envie d'aller passer tes vacances chez tes beaux-parents, c'est tu ne respectes pas les règles du couple. Dans l'amitié, il n'y a aucune règle.
Enfin, dans la vôtre, entre celle d'Esther et Héloïse, il y en a qui se donnent des règles. Il y a des amitiés où il faut absolument se voir 3 fois par semaine. Il faut partir en vacances ensemble.
C'est pas l'amitié, ça, c'est de la prison. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais moi, j'ai toujours senti dans le lien amical qu'il n'y avait aucune règle. J'ai des amis d'enfance, par exemple, qui habitent à l'étranger, donc on se voit peut-être une fois par an, parfois une fois tous les 2 ans. Mais le lien quand on se retrouve est aussi fort. On reprend des conversations là où elles ont été interrompues. Moi, je vois le lien amical sans. Oui, sans règles, sans obligations. Et comme je suis quelqu'un qui a du mal avec les contraintes, c'est un lien dans lequel je me sens extrêmement bien. Imposer dans le couple amoureux l'absence de règles, je crois que c'est plus compliqué, plus difficile. On est tellement, je suis tellement conditionnée que j'imagine que dès que je suis en couple, il faut faire telle ou telle autre chose. Peut-être que le couple amoureux serait plus facile à vivre, peut-être pour moi en tout cas, s'il n'y avait pas toutes ces règles que je m'impose toute seule ou que la société m'impose, parce qu'un couple amoureux, c'est comme ça.
Je pourrais vous répondre ce que vous venez de me répondre sur l'amitié, c'est pas de l'amour alors. Alors je rappelle qu'Héloïse, au début du livre, meurt, et ensuite il y a un retour en arrière en 77, et on remonte jusqu'en 2018, et la maladie d'Héloïse et la confrontation à la mort. C'est aussi un livre sur la mort dont Esther n'a plus peur à la fin du livre.
Oui, c'est un livre sur la mort. On était ces deux, voilà, deux femmes, des femmes, comme je vous le disais, plutôt sérieuses, on n'était pas dans les excès, surtout elle. Et tout d'un coup, la mort est arrivée sans raison. Ce n'est pas parce qu'elle fumait, ce n'est pas parce qu'elle se comportait mal, ce n'est pas parce qu'elle se droguait, ce n'est pas parce qu'elle avait de graves soucis, des tourments. La mort est arrivée, c'est ainsi. La mort arrive dans la vie, c'est ainsi. Il n'y a pas forcément une explication. Les explications toujours rassurent, mais là, il n'y avait pas d'explication. Et je me souviens quand elle m'a appelée pour me dire qu'elle allait mourir, elle le savait, elle avait une maladie généralisée, il y en avait partout, il n'y avait pratiquement pas d'espoir. Je suis allée la voir, la mort était là, et elle me dit, je sais que je vais mourir, mais je me battrai jusqu'au bout. Et en attendant, je vais vivre. Elle était amoureuse, elle avait un nouvel amoureux, un type vraiment adorable qui a toujours été là pour elle. Et ensemble, ils ont voyagé, ils ont vécu jusqu'au bout. La vie dans sa vie a été présente jusqu'au bout. Et la mort, qui était présente aussi, elle ne la masquait pas. Et je vois bien que quand la mort arrive dans une vie, on veut la cacher. On fait comme si la mort n'existait pas. Ce n'est pas un sujet de conversation. J'ai lu pendant l'année dernière ce très bel essai de l'historien Philippe Ariès qui s'appelle « Essai sur l'histoire de la mort en Occident ». Il raconte bien comment la mort qui était dans la vie jusqu'au début du XXe siècle, disons, c'est-à-dire qu'on se préparait à la mort. Quand vous alliez mourir, vous le saviez, vous aviez les dernières prières, les dernières conversations. On allait dire adieu à ceux qu'on aimait, puis on pleurait, on s'habillait en noir. Et il dit cette phrase magnifique, il dit « La mort était apprivoisée, elle est devenue sauvage. Maintenant, je me souviens que la mort de ma mère, ou quelques temps après, quelqu'un que je connais me dit « Comment vas-tu ?» Et je lui dis « Je sais pas, moyen. Ma mère vient de mourir. » Et elle me répond « Oui, c'est à cause de l'événement. » Et je comprends que l'événement, trop dégoûtant pour être nommé, est la mort de ma mère. Et de nos morts, non seulement quand on va mourir, c'est très difficile, il faut avoir cette conversation, il faut pouvoir dire adieu. Et j'ai rencontré une femme extraordinaire qui est Emmanuelle Bernheim, l'écrivain Emmanuelle Bernheim, qui est morte en 2017 et qui, elle, a dit adieu aux gens qu'elle aimait. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de savoir. Elle regrettait, elle aurait voulu vivre encore avec son mari, qu'elle adorait. Et elle avait encore des livres à écrire, mais elle a dit adieu à la vie. Et dans cette amitié avec Héloïse, je vois bien que combien elle était prête à parler de la mort et combien moi, j'ai toujours voulu changer de... J'avais peur, j'étais terrorisée.
Restez avec nous, Colombe Schneck. Tout de suite, c'est le livre culte « Portnoy et son complexe » de Philippe Ross. C'est vous qui l'avez choisi.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
La Voix est livre, le retour de la vengeance. Il est l'heure du livre culte. Nous sommes toujours avec Colombe Schneck qui publie « Deux petites bourgeoises » chez Stock. Et c'est vous, Colombe Schneck, qui avez choisi le roman culte cette semaine. Ça tombe bien, je l'aime beaucoup aussi. Il s'agit de Philippe Roth et l'un de ses livres les plus connus, « Portnoy et son complexe ». Alors le titre original, c'est « Portnoy's Complaint ». Il y a eu plusieurs traductions, on connaît bien « Portnoy et son complexe », mais la dernière en date, c'est « La plainte de Portnoy ». Peu importe, c'est son troisième roman, publié en 1969. C'est l'histoire d'Alexander Portnoy, un trentenaire, juif new-yorkais. Il travaille à la mairie, il parle à son psy et donc il évoque son rapport à sa mère, bien sûr, ses obsessions, sa sexualité, sans aucun complexe donc, puisqu'il parle à son psy. C'est le livre qui a rendu Philippe Ross célèbre, qui l'a révélé, mais, comme souvent dans ces cas-là, le livre a fait scandale. Ross n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est sûr. C'est cru, c'est souvent pornographique. Censuré en Australie, c'est fou cette manie qu'on a de censurer des romans et ça existe encore aujourd'hui. Ça doit faire partie du jeu. Bref, voici la première page donc de Portnoy et son complexe, lu par Philippe Dussault.
Le personnage le plus inoubliable que j'ai jamais rencontré. Elle était si profondément ancrée dans ma conscience que, durant ma première année d'école, je crois bien m'être imaginé que chacun de mes professeurs était ma mère déguisée, Dès que la dernière sonnerie de cloche avait retenti, je galopais vers la maison et, tout en courant, me demandais si je réussirais à atteindre l'appartement avant qu'elle ait eu le temps de changer d'apparence. Invariablement, à mon arrivée, elle était déjà dans la cuisine en train de préparer mon lait avec des gâteaux secs. Au lieu de me faire renoncer à mes illusions, cette prouesse accroissait simplement mon respect pour ses pouvoirs. Et puis, de toute façon, c'était toujours un soulagement pour moi de ne pas l'avoir surprise entre deux incarnations, même si je persistais dans mes tentatives. Je savais que mon père et ma sœur ignoraient tout de la véritable nature de ma mère et l'énormité de la trahison dont, pensais-je, je me rendrais coupable si jamais je la surprenais, était plus que je ne pouvais supporter à l'âge de 5 ans. Je crois que je redoutais même d'être voué à disparaître si je venais à l'apercevoir en plein vol alors qu'elle rentrait de l'école et s'engouffrait par la fenêtre de la chambre ou bien lorsqu'elle émergeait, membre après membre, de l'invisibilité pour réintégrer son tablier. Bien entendu, lorsqu'elle me demandait de tout lui raconter sur ma journée au jardin d'enfants, j'obéissais scrupuleusement. Je ne prétendais pas comprendre toutes les implications de son ubiquité, mais qu'il y eût là un moyen de découvrir quel genre de petit garçon j'étais quand je la croyais absente, c'était indiscutable. L'une des conséquences de ce fantasme, qui a perduré sous cet aspect particulier jusqu'à mon entrée au cours préparatoire, est que, voyant que je n'avais pas le choix, je suis devenu honnête.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Portnoy et son complexe, donc lu par Philippe Dussault. Colombe Schneck, vous êtes toujours avec nous. Vous publiez, je rappelle, Deux petites bourgeoises chez Stock. Et c'est vous qui avez choisi le livre culte cette semaine. Pourquoi celui-là?
Parce que d'abord, quand je lis, j'ai 17 ans et je ne m'attends pas à ça. Je ne m'attends pas à qu'un auteur parle de ma famille. Parce que évidemment, les parents du héros sont mes grands-parents, sont mes parents, cette famille juive, où on parle de constipation, où on a des névroses, où obsédé par le passé, le sexe, tout ça. C'est ma famille. Ma famille dans ce livre, c'est. Je comprends très bien ce qu'il raconte. La nourriture, les cornichons, tout ça, c'est le hareng, tout ça, c'est les problèmes de constipation, les problèmes, le pain de son, tout ça, c'est chez moi, c'est la maison. Et puis je rigole. Enfin, je me souviens de lire et de tomber de mon canapé tellement je ris. Et ça, quand on rit, quand un livre vous fait rire, c'est quand même merveilleux, quoi.
On trouve donc Portnoy et son complexe dans votre bibliothèque. On va voir si on le trouve aussi chez un inconnu, Didier Bourdon. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, nouvelle page. Je suis né, moi, au tout début des années 80. Et donc, comme 99% de mes copains, je connais par cœur tous les sketchs des inconnus. Et j'en ai enfin rencontré un, Didier Bourdon. Il est aussi musicien et il sort un album, Le Bourdon, avec 10 titres et une reprise d'une chanson des inconnus, justement, Vice Versa. C'était l'occasion de lui rendre visite pour visiter ses livres. Bonjour Didier Bourdon.
Bonjour.
Merci de nous recevoir.
De rien.
Moi je suis un peu tremblant, je devrais pas le dire, mais je suis tellement fan que ça fait plaisir d'être là.
Vous avez fait encore des jaloux. Parce que dans le métier, moi je m'aperçois qu'il y a des gens qui sont fans, puis il y a certains, ils m'en veulent de quelque chose, je crois que c'est à cause de vous en fait.
Et je savais que vous lisiez beaucoup. Pourquoi je savais ça? C'est quelque chose que vous projetez ou vous en parlez souvent?
Les inconnus, on sent bien qu'on a une formation littéraire, hein, c'est vrai. Je parle pour les autres, hein, je parle pas pour moi, mais je vois comment écrivait Bernard ou Pascal. Il y a quand même, on sent qu'il y a quand même un petit cursus derrière.
Le personnage de Didier dans Les Trois Frères, peut-être qu'il lit du Montaigne.
Qu'il lit du Montaigne, ça aussi, bien sûr, parce que moi
j'ai
adoré.
Montaigne, il dirait qu'on est dans la merde.
La différence entre nous trois, c'est que peut-être Pascal et Bernard sont plus BD. Moi, je l'étais un peu moins et je suis plus que classique, on va dire.
Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis du coup pas surpris parce qu'il y a énormément de bouquins très pointus. Là, on est dans votre salon, dans un rez-de-chaussée dans Paris, très chouette, avec des décorations Molière, le set.
Là-haut, oui, mais ça, je les ai cachés là-haut. Hein. C'est vraiment pour dire.
Il n'y a pas un escar?
Oui, il y a l'escar. Celui-là, c'est celui dont je suis le plus fier.
Ouais, c'est ça. Ouais. La cérémonie des escarres qui était un sketch des inconnus. Et donc, il y a des bibliothèques un peu partout. C'est quoi votre rapport à la littérature? Vous lisez souvent?
Alors, il faut dire que déjà, j'ai été formé par mes parents. Mon père était déjà très féru de littérature. Ma mère, énormément, qui est toujours de ce monde d'ailleurs. Elle adore toujours. Enfin, hélas, maintenant, elle lit un peu moins parce que c'est plus fatigant pour ses yeux. Zola, moi, j'étais un peu moins Zola. J'étais plus Stendhal et Balzac. Donc, il y avait des petites luttes interfamiliales. Ah, tu devrais dire ça, enfin, voyons, Didier. Voilà, bon, je rebutais un petit peu à ça. Puis sinon, oui, j'ai fait pas mal d'études classiques. J'ai fait du latin et du grec. Et là, d'ailleurs, on voit dans ma bibliothèque, je crois que j'ai gardé le petit...
Oui, il y a des dictionnaires de grec français.
Le petit Attier, ouais, j'aime bien l'écriture grecque aussi. Et puis, les auteurs grecs.
Vous lisez le grec ancien?
Je lisais, j'étais pas mauvais, j'étais un bon élève. Ouais. Et j'étais au concours général de latin aussi.
Et alors, il y a des Pléiades là dans cette bibliothèque, beaucoup de Pléiades et des Pléiades un peu abîmées, donc très lues.
Oui.
Vous aimez lire dans ce format-là, ça...
Oui et non.
Les Pléiades, mais on les lit en format poche, mais on les conserve.
Oui, c'est vrai. C'est la poésie que j'aime beaucoup en Pléiades. Et alors maintenant, j'ose faire quelque chose que je faisais pas trop à l'époque, surtout que c'était les bouquins de mon père, mais je biffe les choses maintenant au crayon à papier, des choses que j'aime bien. Ouais, maintenant ouais, je le fais. Ouais. Tant pis pour la Pléiade. Mais il y a le théâtre aussi parfois, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi, parce que j'aime ce... En fait, ça me rappelle mes souvenirs de papa, quoi. Et j'ai découvert pas mal d'auteurs, notamment Arthur Rimbaud. C'était en haut de la pile, là-haut, et j'étais attiré par ce bouquin, je sais pas pourquoi. Et c'est vrai qu'ils sont très beaux, ces bouquins de la Pléiade.
J'ai Rimbaud dans les mains, là, oui. La Pléiade, qu'est-ce qui vous...
Oui, non, il y avait une petite anecdote, en effet, c'est sur la chanson « Et vice versa ». C'est là que j'avais trouvé dans l'introduction d'Antoine Adam le mot à la fin où il parle de la déréliction de l'homme seul. Et ce mot-là m'avait bien plu.
Oui. Éradiquer les tentacules de la déréliction, ça c'est les paroles de vice-versa.
Voilà, c'est ça, ça veut dire quelque chose, mais enfin compliqué.
Et là, vous avez retrouvé l'extrait.
Voilà, déréliction de l'homme seul.
Voilà. À ceux qui refusent d'avouer son génie, à ceux qui ont besoin pour l'admirer d'invoquer les mysticismes et les métaphysiques, il n'a peut-être manqué que d'avoir connu la souffrance des pauvres, l'abaissement des vaincus et la déréliction de l'homme seul. Voilà,
donc oui, on n'était pas loin de vice-versa déjà.
Et juste un mot sur vice-versa, c'est vous qui avez écrit les paroles?
Oui, bah oui, bah, c'est pas très compliqué.
Mais oui, bah, c'est pas très compliqué, enfin, c'est que alors... des mots.
Savant, mais vous savez, les mots savants, c'est pas plus compliqué que les mots d'argot. Hein. C'est les mots savants, les argots. Moi, j'ai un pote qui m'a appris beaucoup l'argot, je peux vous dire. C'est ce que c'est qu'une limace, une chemise. Des choses comme ça, c'est magnifique, ça aussi.
Être ou ne pas être, telle est la question sinusoïdale de l'anachorète. Hypochondriaque.
Et là, je vois les Fables de La Fontaine et le roman de Renard, qui sont vos inspirations, en fait, quoi, dans la caricature et dans la fable.
Oui, le roman de Renard, ça n'a pas vieilli. Hein, c'est vraiment... Il y a des passages extraordinaires avec des personnages très, très colorés, avec le côté pingre, le côté sournois, le côté... c'est bizarre, d'ailleurs, il n'y en a pas un aussi que j'adore, c'est Maupassant, mais c'est vrai que c'est nouvelle. Les nouvelles Maupassant, il y a des personnages... Balzac, bien évidemment, mais les nouvelles... C'est vrai qu'en vieillissant, on lit un peu moins longtemps. Moi, je lis moins, j'ai moins de temps, peut-être aussi, hein, c'est normal. Mais une bonne nouvelle de Maupassant, de temps en temps, c'est extraordinaire, quoi. C'est d'une cruauté, d'un réalisme. Et ma fille, d'ailleurs, a étudié il n'y a pas longtemps la parure. C'est extraordinaire, on connaissait la parure, non? C'est fabuleux, la bonne femme qui demande la parure de la dame, sa dame chez qui elle travaille, et elle perd la parure pour une soirée, et donc elle rembourse, elle rachète une autre parure, elle rembourse toute sa vie la parure à la fin de la nouvelle. Cette dame apprend la bouche de sa maîtresse, ben non, la parure, mais c'était rien du tout, c'était un faux bijou et tout. Donc elle a passé toute sa vie dans la misère pour rembourser un faux bijou. Donc c'est terrible, c'est d'une cruauté, c'est fort, parce qu'au lieu de le dire dès le départ, ça, c'est vraiment, enfin c'est encore, il y en a d'autres beaucoup plus...
Je vois Victor Hugo là dans une vieille édition.
Oui, alors ça, c'est une édition qui a dû appartenir à Alfred Sauvy, qui était la personne qui habitait avant ici, qui était un homme remarquable, un grand économiste, qui était aussi qui adorait les livres, qui adorait l'humour et la poésie.
Et qui vous a laissé les livres?
Alors sa fille, quand j'ai acheté l'appartement, m'a laissé pas mal de choses, et notamment des livres. Bon, il y avait énormément de livres, hein, c'était vraiment un fou de bouquins.
Vous avez fait une adaptation de Victor Hugo, d'ailleurs, Les Miséroïdes.
Oui, tout à fait, ouais, exactement.
Mais c'était vous, toutes ces idées-là?
Oh non, c'est mélangé. Après je
les
sais.
Les ondes dangereuses.
Ça, c'est peut-être moi, ça. Les ondes dangereuses, ça, c'est peut-être moi, parce que j'aime bien tout ça. Le 18e siècle, j'adore aussi. J'adore la langue, d'ailleurs. Je crois que j'ai des bouquins.
Voilà ta mouche, Merteuil.
J'adore la... Bah oui, alors par exemple, dans les liaisons dangereuses, vachement dangereuses, il est certain qu'on s'est amusé à écrire un petit peu, enfin, la mode du 18e, avec les phrases compliquées, un petit... enfin, pas si compliquées que ça, mais très bien bâties. Si mon, votre autre cupidant, c'est à la hauteur de... Enfin, toujours des... C'est vraiment, c'est une très très belle langue. Et donc, là, on s'est marré, parce que bien évidemment, devant, il y a Vandamme qui lui est un langage un petit peu plus brut, abrupt et brutal.
Il y avait l'émission Apostrophe aussi, mais avec un F que vous aviez.
Oui, ah bah, d'ailleurs, ouais, Apostrophe, il était question d'ailleurs, je crois, de changer le PH en F, non ? C'est pas fait ça.
Ah, dans une en vrai, réforme.
Ah, oui, oui.
Mais le propos du sketch Apostrophe, c'était on était en 2033, il y avait le petit-fils de Bernard Pivot qui présentait l'émission, et vous, dans le rôle de l'écrivain, avec un blouson de cuir vert, ouais, vert pomme, et les deux parlaient en verlan.
C'est ça, et moi j'avais le blouson vert parce que j'étais à la Camille française.
Voilà, et ils parlaient n'importe comment, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire pour eux, c'était pas n'importe comment, mais le temps avait passé. Et puis, je crois qu'il y en a un qui s'offusquait d'une nouvelle loi sur le verlan ou je sais pas quoi. Enfin, et donc, je me souviens d'un truc avec ma Suzuki. Je fus over loin la coupole en Suzuki.
Alors, tout de suite, je me tourne vers mon invité unique pour son blême hachement unique, mais hachement grave. Il s'agit de Bob Toison, dit Bobby, récemment élu à l'Académie française. Et le problème pour lequel que tu te trouves là, c'est quand même la réforme de l'orthographe du verlan dont tout le monde parle et qui suscite quand même, faut bien le dire, une putain de polémique au sein de l'Académie, Bobby.
C'est sûr, Franck. Ouais. Sûr, et quand j'ai su d'ailleurs que ça venait droit direct du doyen de l'Académie, je te jure, j'ai eu envie de prendre ma Suzuki et de fuir over loin de la coupole.
Il y a donc toutes les pléiades des grands poètes. Il y a Paul Valéry, il y a Apollinaire, il y a Éluard, il y a Jacques Prévert. Est-ce que vous connaissez des poèmes par cœur? Vous plongez
marrant.
Dedans, vous picorez.
Je connais des bouts de poèmes par cœur, mais je ne connais pas. Là, je suis assez admiratif. Bon, Lucchini, c'est un peu son boulot aussi, mais je trouve ça fabuleux de pouvoir réciter un poème comme ça. J'ai du mal. J'ai une très bonne mémoire quand je travaille une pièce de théâtre, c'est vrai, je remercie. Mais j'ai une mémoire après qui s'évanouit un peu. Je vous dirais franchement que quand je reprends un texte classique que j'ai joué même quand j'avais 20 ans, je le retrouve assez vite, parce que comme s'il était dans un coin du cerveau. Mais je pourrais difficilement. Non, je connais, oui, Paul Valéry, patience, patience dans l'azur, chaque atome de silence et la chance d'un fruit mûr. Bon, ça c'est même philosophique, c'est magnifique. Mais j'adore Paul Valéry parce que c'est vraiment, il est à cheval entre le classicisme pur et dur et en même temps un certain hermétisme que j'aime bien.
Il y a du Tchekhov aussi.
Ah non, Tchekhov, c'est un immense auteur.
Vous lisez du théâtre ou...
Oui, Tchekhov.
Père du théâtre.
Ah bah j'ai l'habitude, hein. Je suis né là-dedans, donc j'ai lu Racine, Molière, Corneille déjà à l'époque, Marivaux. Le 18e est pas facile à lire. Le 18e est pas facile à jouer aussi, parce que la langue est un peu plus compliquée. Mais c'est magnifique, magnifique, j'enfonce des portes ouvertes. Mais Tchekhov est un auteur extraordinaire, c'est un des plus grands pour moi. C'est-à-dire qu'il y a de l'humour, il y a énormément d'humour dans Tchekhov. Même dans Harold Pinter, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil, parce que je crois qu'à peu près, je veux dire, j'ai fait la réflexion ce matin, je crois que ça fait 40 ans jour pour jour que j'ai passé mon concours du conservatoire, et notamment une scène de Harold Pinter, l'amant, c'était en juin 81.
Oui. C'était encore ?
Non, mais si je relisais le texte... Alors, le Pinter, c'est compliqué parce que ça veut tout rien dire. C'est-à-dire, ça passe du coq à l'âne, mais en fait, il y a une ambiance, il y a un truc.
Je viens de trouver le document préparatoire pour Jésus 2, le retour. Non, c'est ça... un que sais-je sur le procès de Jésus.
Oui, les que sais-je...
Qu'est-ce qu'il fait là ?
Alors là, ça doit être un vieux... Alors franchement, ça doit être un vieux truc que j'ai gardé. De quand ça date ?
Oula, ça c'est...
Parce que ça, c'est les années bac.
80, quoi.
Ah ouais, même ouais, ça... Et les que sais-je, j'aimais bien les que sais-je parce que ça nous permettait de bien préparer.
1980.
Ouais, bah j'ai dû l'acheter au moment du conservatoire avec Gilbert Sigaud. Petit clin d'œil d'ailleurs à Sota, vous savez, la femme de Romain Bouteille qui vient nous quitter. Mm-hmm. C'était la fille de Gilbert Sigaud qui était un grand, d'abord un écrivain, puis un professeur au conservatoire de théâtre, d'histoire du théâtre, et qui était formidable et qui nous a fait découvrir plein de trucs aussi, qui nous disait de lire des bouquins, c'est peut-être cette période-là.
Et là, il y a un carnet, c'est un carnet dans lequel vous prenez des notes ou ça,
ça c'est un carnet, vous pouvez l'ouvrir, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu.
Joli carnet. Hein.
Non, c'est que de l'allemand en fait.
C'est de l'allemand, mais pourquoi?
Parce que j'avais un a priori sur la langue allemande, comme beaucoup de Français peut-être. Et en fait, une fois en visite en Allemagne et en Autriche, je me suis dit, mais putain, j'adore Mozart, j'adore Stefan Zweig. J'adore Bach, j'adore...
Des pages et des pages et des pages en allemand.
Oui, c'est ça. Parce que j'apprends l'allemand.
Mais donc vous écrivez, c'est quoi en fait ça, c'est des...
J'aime bien l'écriture allemande, elle me rappelle un peu l'écriture latine, un peu, avec le verbe à la fin.
C'est des exercices ?
Alors ce sont des leçons que je réécris. Pour aussi, je vais vous dire un truc. Je disais que je lisais un petit peu moins avec l'âge, j'écris moins aussi. Et j'adore l'écriture, et ça au moins je me dis,
tiens, c'est manuscrit.
au moins j'écris quoi.
Et donc du kannst Deutsch sprechen?
Ja, ein bisschen.
Donc schön, Didier Bourdon.
Bitte schön.
Merci de nous avoir.
Wiederhören, c'est plutôt ça plutôt que Wiedersehen, c'est Wiederhören à Europe 1. Et puis bravo pour votre émission, c'est sympa. C'est...
Merci pour l'accueil.
De rien. Au revoir.
Retour en studio, merci beaucoup à Didier Bourdon. Son album Le Bourdon sort cette semaine. Et vous, Colomb Schneck, c'est rangé comment les livres? Est-ce qu'il y a des livres chez vous d'abord ou est-ce que vous en débarrassez au fur et à mesure? Comment ça marche?
Oui, il y a des livres, il y a des livres. Et bien, ils sont rangés depuis un an.
C'était depuis pas le confinement?
C'était pas le cas avant. Et je les ai rangés. Il y a dans ma chambre, j'ai le temps là, parce que sinon il y a beaucoup de livres. Dans ma chambre, il y a les livres de littérature française, les romans. Je suis une lectrice de romans. Dans le salon, il y a littérature étrangère et je commence à lire des... Moi qui étais une grande lectrice de romans, je commence à lire des essais. Et oui.
On ira visiter votre bibliothèque alors. Mais est-ce que c'est rangé, c'est très bien classé ou c'est un peu...
C'est relativement bien classé, c'est pas mal, c'est un progrès. Après, il y a encore des gros tas, des piles un peu partout. Il y en a partout, il y en a dans la salle de bain, il y en a dans la cuisine, il y en a dans les toilettes, dans l'entrée. Oui, il y a des livres partout, oui.
Il y a un meuble joli et tout ou c'est des étagères avec des équerres?
Alors, j'ai des jolies bibliothèques. Quelques années, j'ai investi, j'ai gagné de l'argent grâce à un livre. J'ai investi dans des vraies bibliothèques. J'en suis assez contente.
Dans un instant, plein d'autres livres puisqu'il est l'heure des libraires. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour de La Voix est libre, il est l'heure de rendre visite à un libraire. Une libraire, direction la librairie L'Écriture à Vaucresson chez Anne Burzynski. Bonjour Anne Burzynski.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir à la librairie L'Écriture de Vaucresson, célèbre maintenant.
Un petit peu maintenant, hein. On commence à venir en force avec la librairie L'Écriture et c'est toujours un plaisir, donc merci de venir à nouveau nous voir.
Avec plaisir. Vous avez deux coups de cœur aujourd'hui, un roman et puis un livre, je ne sais pas trop comment le qualifier, c'est un essai peut-être?
Oui, c'est effectivement un livre un peu inclassable, c'est un essai. En même temps, ça ne se lit pas du tout comme un essai, on va en parler, mais c'est carrément le plaisir d'un petit Olney en fait, mais on va vous en dire bientôt plein de bonheur.
Olney, objet littéraire non identifié. On commence par le roman tout à fait identifié de Maggie O'Farrell, ça s'appelle Hamnet, c'est chez Bellefond.
Ouais, alors Hamnet, déjà forcément quand on dit ce nom, bah, ça évoque un petit peu quelque chose en général, ça fait penser quand même à un des plus grands textes de la littérature. Et pour cause, à l'époque...
Donc, Hamlet, donc. Hein,
okay. Ouais, Hamlet, hein, de Shakespeare, a priori. Et à cette époque-là, d'ailleurs, c'est pas anodin, parce que Hamnet, c'était exactement l'équivalent du prénom Hamlet. Et c'était le prénom, en l'occurrence, du fils de William Shakespeare, qui, on ne le sait pas forcément, mais est décédé à l'âge de 11 ans, a priori de la peste noire, sans qu'on puisse en être 100% sûr. Donc, ce livre... Il nous fait revivre ce personnage-là, mais de manière générale, toute la famille Shakespeare, vue et ressentie de l'intérieur. On va voir en fait qui était la femme de William, qui il était dans l'intimité et qui étaient ses enfants. Donc évidemment, c'est pas réservé à ceux qui connaissent déjà William Shakespeare ou qui sont passionnés par lui, puisque c'est avant tout des histoires humaines et des histoires de vie. Et c'est raconté avec, franchement... Enfin, avec une plume qui est extraordinaire, c'est très vivant. Donc que ce soit le théâtre à cette époque-là, les rues à cette époque-là, que ce soit la psychologie des personnages, tout est plus vrai que nature. Donc c'est du roman historique, mais c'est incarné, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était des humains avant tout. Et c'est magnifique. J'ai un client qui est revenu me voir la semaine dernière en me disant que c'est le plus beau livre qu'il ait lu cette année. Donc ça, si ça ne fait pas plaisir quand on vient vous donner ce retour, je ne sais pas ce qu'on peut dire, quoi.
Ah, ça, c'est magnifique quand les clients reviennent exprès pour vous dire qu'ils ont adoré le livre. Ça, c'est superbe. On passe alors tout autre chose. Donc, cet Olney, objet littéraire non identifié, qui s'appelle Petit traité du lecteur.
Oui, alors en fait, au départ, il se présente comme, avec un peu d'audace, il se présente comme un livre qui va nous classifier les différents types de clients qu'on rencontre en librairie, puisque c'est en fait un Sean Beattle, donc c'est le nom de l'auteur, c'est un libraire écossais qui donc nous donne une typologie des différents types de clients qu'on croise en librairie, en tout cas dans sa librairie d'occasion. Mais évidemment, il nous l'annonce dès le début, c'est avec un petit sourire ironique parce qu'il se doute bien qu'on ne peut pas mettre des étiquettes sur les gens et que ces typologies, elles ont clairement des limites. C'est plus l'occasion pour lui de nous raconter plein d'anecdotes d'un libraire au quotidien et avec un vrai sens de l'autodérision en fait de la part de ce libraire un peu bougon et avec un vrai sens de l'humour anglais aussi. Donc je pense que ça peut plaire à tout le monde. C'est drôlatique en fait. Évidemment, nous, en tant que libraires, on y reconnaît des situations et des personnes parce qu'on a beau se dire, on ne peut pas mettre des étiquettes sur les gens, et bien quand même, ça ressemble vraiment à du vécu, très clairement. Par exemple, il y a sur la couverture, ils mettent la fameuse phrase de « Bon, je ne sais plus exactement quel est le titre, mais c'est une couverture bleue. » Et puis, il y a le client qui ne sait pas du tout ce qu'il cherche et qui donne des informations très vagues. Il y a toujours plein de situations qu'on a vécues où le client qui va venir avec ses enfants qui sont un petit peu agités, donc les parents un peu à bout. Il y a un petit peu plein comme ça de personnes qui, sans qu'on puisse les ranger dans des cases, c'est quand même clairement du vécu. Et ça nous fait rire que ce soit finalement les personnes qui ne bossent pas en librairie, mais qui peuvent être ces clients-là, des fois. Et puis, évidemment, encore plus quand on est libraire, mais tout le monde s'y retrouve et c'est vraiment super drôle, quoi. Ça peut s'offrir dès qu'on aime les livres, en fait. De toute façon, on ne peut que aimer ce livre et que y retrouver de l'humain, en fait, quoi. Enfin, c'est de la connivence, quoi.
Sean Beattle, donc, Petit traité du lecteur, c'est chez Autrement. Et on a parlé aussi de Maggie O'Farrell, Hamnet, c'est chez Belfond. C'est la vie de Shakespeare, quoi. Merci beaucoup, Anne Wierzynski.
Avec plaisir, merci Nicolas et à bientôt.
Europe 1.
Retour à Europe 1, dans un instant, nous sommes rejoints par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. A tout de suite.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve Victor Dolande pour son conseil littérature jeunesse. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Ah bah aujourd'hui, c'est fastoche.
Ah
on
oui.
le connaît.
Fastoche.
Titeuf.
C'est pas dur.
C'est pas dur. La grande aventure chez Glénat. C'est le nouveau tome, c'est ça,
ouais,
le nouvel opus?
Exactement. Le 17e du Garçon à la Mèche. On change d'ailleurs pour ce nouvel opus. Totalement de décor. Fini la ville, l'école et le quotidien de Titeuf. Lui et son meilleur copain Manu partent cette fois
en classe verte.
Exactement, en colo. Alors je vous cache pas qu'ils auraient quand même préféré partir en camp de jeux vidéo, mais bon, il n'y avait plus de place. On apprendra assez rapidement que c'était en fait une ruse des parents pour lui faire accepter l'idée de la colo. Alors ça m'a intrigué cette histoire de camp de jeux vidéo, j'ai donc posé la question à Zep, le créateur de Titeuf, et figurez-vous qu'il a cherché.
Là par contre j'ai cherché s'il y avait vraiment un camp de jeux vidéo, j'en ai trouvé un au Québec. Mais ça ressemblait plus à des activités de jour où on amène son enfant, on le reprend le soir. Mais un camp où les enfants partent faire du jeu vidéo, visiblement c'est un peu, c'est comme s'il y avait un camp drogue, quoi. Ça n'existe pas, c'est le truc, aucun parent ne mettrait son gamin là.
Bon, oubliez le camp jeux vidéo, direction cette fois-ci du coup, le camp du Bois des Ours, un nom qui va d'ailleurs donner quelques sueurs froides à notre héros, notamment lors des nuits sous la tente.
Pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans cette colo?
Alors, c'est une intrigue qui se déroule tout au long de l'album, et plus comme dans les 16 premiers numéros, vous savez, des mini-intrigues d'une ou deux pages. Les enfants vont faire de la randonnée, Titeuf adore, vous pensez, un peu d'escalade, de baignade dans les rivières, et aussi beaucoup de discussions sur la vie, aucun sujet tabou comme d'habitude. Il y a question d'égalité homme-femme, de sexualité comme d'habitude, d'amour et de pédophilisme. Notre corps nous appartient, explique le héros. Bref, du grand Titeuf, du grand Zep.
Ça vous fait rire, vous?
Ah oui, j'adore. Du grand Zep qui prend de l'avance, figurez-vous. Car d'habitude, les aventures de Titeuf, bah, ça sort à la rentrée. Mais cette fois-ci, Zep a voulu anticiper et accompagner ses jeunes lecteurs pour les vacances.
Et on rappelle le titre du dernier Titeuf, donc La grande aventure de Zep aux éditions Glénat. Merci Victor.
Merci à vous Nicolas.
Et vous Colombe Schneck, quel est le premier livre que vous avez lu ou qui vous a marqué, disons?
Alors mon premier livre de grande, parce que c'est un livre dans lequel il n'y a pas d'image, c'est une sorte de patin à glace qui se passe en Hollande. Et je me souviens d'une sorte d'un frère et sœur qui sont tellement... Ils sont pauvres. Et ils ont de l'argent juste pour s'acheter une paire de patins.
Pour deux.
Pour deux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent une paire de patins qui est à la fois trop petite pour l'aîné et trop grande pour la plus petite. Et je me souviens de la tristesse qui me prend à la lecture de ces patins trop petits et trop grands, du froid sur la glace, mais aussi de ma fascination de ce pays où les enfants vont à l'école en patins à glace, quoi. Donc, un mélange de tout ça. Les patins à glace. Je me souviens plus du titre de l'auteur, mais je me sens aussi de ma fierté d'avoir lu ce livre de grand sans image.
Si on nous écoute, moi, je veux bien qu'on retrouve, si ça dit quelque chose à quelqu'un, qu'on retrouve le titre de ce roman. J'aime bien l'idée, quand même. Merci beaucoup, Colombe Schneck. Deux petites bourgeoises, c'est donc votre nouveau livre chez Stock, votre nouveau roman. Merci beaucoup.
Merci, Nicolas Caro.
À bientôt.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.